dès lundi et jusqu'à nouvel ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du scientifique, comme les grippes, comme d'habitude. Rien. Voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Je suis très même assez, moi.
Ça va alors?
J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre. Le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi à 19h.
C'est quoi un édito ? Une minute, deux, grand maximum, où celui ou celle qui présente, c'est moi, s'adresse à l'auditrice, c'est toi, en tentant de manier avec autant de dextérité que possible les subtilités parfois un peu bourrines de la langue, pour interpeller, émerveiller, secouer, apaiser. Peu importe le sujet, hein, que l'on cause de la politique extérieure du Pakistan ou de son week-end dans les sous-bois de la forêt des Bertranges, pourvu que ça évoque, que ça sonne bien, que ça file la chair de poule comme la fenêtre entrouverte un soir de printemps, alors qu'allongé sur ton lit, tu savoures le courant d'air frais sur ta peau nue, perlée de gouttes de sueur, encore brûlante d'avoir trop bien baisé. Ou parfois, tu craches juste ton fiel contre les espèces d'imbéciles PA qui n'en finissent pas de s'enfoncer alors que tu croyais pourtant qu'ils avaient touché le fond, tellement ils sont 36 000 pieds sous la connerie. Et que choisir? Que choisir? Parce que les cons, c'est pas ce qui manque! Tu me diras, auditrice, on est toujours le con d'un autre. C'est pas faux. Mais laisse-moi te dire que cette semaine, on est l'autre d'un paquet de cons. Vu le nombre qui respire l'euthanasie des cons, ce serait une grande mesure contre le réchauffement climatique. Mais le pompon cette semaine, ce sont les policiers et policières qui sont allés distribuer des récépissés de non-contrôle d'identité. Parce qu'ils en ont assez, tu comprends, qu'on les accuse de ne contrôler que les personnes issues de l'immigration. Du coup, pour montrer qu'ils ne sont pas racistes, qu'ils ne font pas de contrôle aux faciès, ils ont décidé de tracter ces faux récépissés qui affirment qu'ils ne ciblent pas les personnes racisées en... Je te donne dans le mille, les distribuant principalement aux personnes racisées. Génie ? Point d'interrogation ?
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bonsoir auditrice et bienvenue dans Jusqu'à Nouvel Ordre, l'émission confinée de Radio Campus Paris. Confinée pas que, un peu déconfinée, je suis Pitoum et au micro de Radio Campus Paris dans les studios pour la première fois depuis plus d'un mois et ça me fait hyper plaisir. Même Paul Bismuth est content, c'est te dire. Au sommaire de ce mardi 8 décembre, où en est le système de santé publique français? Alors que la pandémie de Covid-19 a marqué l'année 2020 et mis à l'épreuve les systèmes de santé un peu partout dans le monde et les politiques sanitaires, qu'en est-il en France? Depuis 2019, les hospitaliers sont mobilisés et tandis que le Ségur de la santé amène quelques milliards sur la table, nous verrons si cela est suffisant avec le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, délégué CGT Santé et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Au sommaire aussi de l'émission, nous avons deux chroniques de Chloé et Audrey qui viendront nous parler respectivement, si je ne dis pas de bêtises, du déconfinement pour la culture. Et puis la deuxième, évidemment, on a eu des petits soucis, donc je n'ai pas le conducteur sous les yeux, mais il me semble que la deuxième chronique traite... Est-ce qu'on peut me faire un signe en régie? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, Anaïs va venir, mais elle ne vient pas. Voilà, c'est la reprise. Tout met du temps à démarrer, même le présentateur, c'est terrible. Nous avons donc deux chroniques, nous avons de la musique. En musique, des choses très bien. On aura le nouveau titre de Anorak avec... alors, je ne sais pas le dire, Lenparot, Lamprot, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, c'est sur le label Beer Records, le nouveau label de Bon Entendeur. On est très très contents. On écoutera Tom Rosenthal aussi. Et ça me fait très plaisir. Big Pot of Hummus. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout de suite, bah justement, on va écouter le Anorak et Lenparot. Ça me paraît bien. À tout de suite. We'll be right back. Et c'était... Alors, je vais essayer de le dire bien cette fois. C'était Anorak et Len Parrott pour le titre... Quel était ce titre ? Je vais le trouver. Ah oui, Hunting Pieces. Merci Anaïs qui m'a rejoint en studio.
C'est le dernier album de Bon Entendeur. Donc,
voilà. Donc, c'était très très bien. On était très très contents de les avoir pour pallier à nos petits soucis techniques.
On est vraiment désolé.
Ah, ok, il n'y a pas de virgule. Hein. Décidément, tout se passe bien.
C'est la reprise. Donc, heureusement que tu es là, Brice, bah, pour
oui,
me soutenir.
C'est ça, on tient bon, on tient bon, on tient le fort. On tient le fort. Il y a quelques semaines, moi, j'interviewais une street artiste pour une autre émission hein, que cette merveilleuse radio qui surfe sur le 93.9 FM et qui, laissant de côté quelques instants secrets et ses jeux de mots qui s'étalent sur les trottoirs de Montmartre, avait profité de notre entretien pour parler de la situation que nous connaissons et qui aura marqué de ses tests PCR et autres autorisations de sortie l'année 2020. Et plutôt que de dire « crise sanitaire », elle insistait pour qu'on parle de « crise de l'hôpital ». Alors, l'hôpital est-il en crise ? Et si oui, comment s'en sortir ? Pour essayer de nous éclairer sur cette question, nous avons avec nous par téléphone ce soir le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, délégué CGT Santé et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonsoir, je vous entends très bien.
Parfait, merci d'être avec nous. Et donc avec moi en studio pour mener cet entretien, Anaïs de la rédaction de Radio Campus. Salut Anaïs,
mais bonsoir.
On t'a déjà entendu. Christophe Prudhomme, je me permets, donc vous êtes médecin urgentiste au SAMU 93. La première question que j'ai envie évidemment de vous poser, c'est quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui, alors qu'a priori la deuxième vague se tasse, mais finalement peut-être pas tant que ça.
Écoutez, la situation sur le terrain reste tendue, enfin en tout cas à l'hôpital, en tout cas, parce que avoir à gérer et l'épidémie et les patients habituels, c'est une gageure pour l'hôpital, parce que l'hôpital fonctionne à flux tendu en période normale, donc dès que nous sommes confrontés à un surcroît d'activité, eh bien nous sommes en crise. Et aujourd'hui, les personnels sont épuisés, un certain nombre de patients de nouveau ont été déprogrammés, des patients qui avaient déjà subi cette déprogrammation au printemps, des retards à la prise en charge qui ont des conséquences hein, pour ces patients. Vous savez, on risque d'avoir une surmortalité globale sur les patients cancéreux et pour les maladies cardiovasculaires qui risque d'être très importante hein, au regard de ce qu'on nous annonce lié au coronavirus. Donc, il y a une véritable crise de l'hôpital, une crise de notre système de santé qui n'est pas en capacité de gérer à la fois la population tout venante avec ses maladies et une crise comme celle du coronavirus qui, heureusement, n'est pas la catastrophe qu'on aurait pu craindre au mois de janvier de cette année.
Parce que justement, donc là, ce que vous nous dites, c'est que clairement déjà bien avant, ou en tout cas avant la crise du coronavirus, l'hôpital, de toute façon, était déjà dans une situation compliquée. Vous étiez mobilisé depuis toute l'année 2019, les hospitaliers étaient mobilisés pour dénoncer ça, d'ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, vous savez, on tous les soirs, on vous annonce le taux d'occupation des lits de réanimation. Voilà. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, moi, en tant qu'urgentiste, depuis 15 ans, chaque hiver, chaque été, chaque long week-end de l'année, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de jours dans l'année, eh bien, nous sommes en difficulté pour hospitaliser les patients en réanimation, parce que nous n'avons pas assez de lits de réanimation en France. Et puis, globalement, vous savez, Madame Bachelot et ses prédécesseurs au ministère de la Santé...
Elle avait fait une mesure de fermeture de lits, c'est bien ça ?
La suite, les ministres de la Santé qui se sont succédés depuis 25 ans, sont à l'origine, sont responsables de la fermeture de 100 000 lits en France. 100 000 lits, vous vous rendez compte ? Voilà. Donc, pourquoi l'hôpital est en difficulté ? Ben, c'est le résultat de cette politique. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise gravissime de l'hôpital et plus globalement de notre système de santé. Parce que vous savez, mes collègues en ville sont en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas formé assez de médecins, puis surtout on a formé beaucoup de spécialistes et pas assez de médecins généralistes. Or, pour gérer le tout venant aujourd'hui, pour faire les tests, pour faire les vaccinations, pour s'occuper des patients qui sont atteints par le coronavirus, qui s'en occupe ? C'est pas les diabétologues, c'est pas les pneumologues et les cardiologues. Ce sont les médecins généralistes sur le terrain. Or, ils sont très peu nombreux. Il faut savoir aujourd'hui que sur les 200 000 médecins qui théoriquement devraient voir des patients aujourd'hui en France, sur le terrain, les médecins généralistes qui voient des patients qui sont des médecins traitants, ils sont à peine 50 000.
Oui.
Voilà. Donc,
et M. Prud'homme, pour répondre à cette crise, l'exécutif a fait une série de mesures qui s'appelle le Ségur de la santé, on le rappelle, une série de mesures pour remettre de l'humain, des moyens et du sens au système, dans le système de santé. Et l'exécutif a annoncé qu'il allait investir 19 milliards d'euros dans l'hôpital. Est-ce que vous, ça vous semble assez pour vous, les soignants?
Ah ben déjà, il faut regarder ce que représentent ces chiffres.
Oui. Parce qu'il y a 13 milliards de reprise de dette.
Mais en fait, d'abord, 13 milliards de reprise de dette,
oui.
Mais le gouvernement ne met aucun euro dans ces 13 milliards. Il met ces 13 milliards dans les dettes qu'il va falloir rembourser avec ce qu'on appelle la CRDS que vous voyez sur votre fiche de paye. Vous savez, cette cotisation-là qui a été instaurée il y a quelques années, soi-disant pour combler le trou de la sécurité sociale. Donc les 13 milliards, c'est pas de l'argent qui existe, c'est de la dette.
D'accord.
Bon, le seul argent qu'il a mis en plus cette année, c'est les 8 milliards pour les augmentations de salaire. Augmentations de salaire qui sont très insuffisantes au regard du blocage des salaires depuis 2010. Il faut savoir que depuis 2010, les salaires dans la fonction publique hospitalière sont bloqués. Nous avons eu quelques petites augmentations, 0,3% une année, 0,3% une autre année, depuis 2010.
Donc, ouais, ça fait plus de 10 ans.
C'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé le fait que on prenait les infirmières parce que c'est le métier emblématique de l'hôpital. Les infirmières en France ont un pouvoir, ont des rémunérations en termes de pouvoir d'achat parmi les plus faibles de tous les pays de l'OCDE. Il faut savoir que les infirmières mexicaines gagnent plus que les infirmières françaises, par exemple. Voyez. Donc, et ce n'est pas les 183 euros là, du Ségur de la santé qui rattrapent ce retard.
Donc en fait, c'est une grosse somme pour finalement...
Et puis surtout dans cette somme, ce qui est particulièrement scandaleux, il faut le signaler, c'est que ce n'est pas que pour l'hôpital public. Il faut savoir que sur ces... c'est un petit peu moins de
2
milliards. Il y a quasiment 2 milliards qui sont donnés gracieusement au secteur privé lucratif, qui ne prend pas sur ses marges, qui continue à rémunérer ses actionnaires et qui va augmenter les salaires avec l'argent donné par l'État, avec l'argent de la sécurité sociale. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des entourloupes. Et vous savez, aujourd'hui, non seulement beaucoup de personnels sont insatisfaits, un certain nombre, d'abord, ont été exclus de ces mesures.
Et qui sont les personnes exclues du Ségur, justement? Est-ce qu'on pourrait revenir?
Les personnels exclus du Ségur, il y a 55 000 personnels qui travaillent dans des maisons de retraite, dans des structures pour handicapés, qui sont exclus du Ségur, qui n'ont pas touché les 183 euros là, d'augmentation de salaire. Et du côté des médecins, il y a soi-disant eu un Ségur de la santé, et les médecins se rendent compte que c'est une grosse arnaque, pour pouvoir éventuellement avoir une augmentation de salaire, la carrière passe de 24 ans à 36 ans. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai discuté avec un collègue qui a été nommé assez tard, les études sont longues, et puis ensuite, pour devenir titulaire, pour passer un concours, c'est difficile. Il me dit « Ah, je pourrais peut-être atteindre le dernier échelon si je reste au travail jusqu'à 80 ans. » Vous voyez ?
Mais non, c'est pas
donc,
possible.
C'est ridicule. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où, y compris, le gouvernement va même plus loin, puisque là, il y a une charmante députée, La République En Marche, qui se dit médecin, qui a proposé une loi là, du post-Ségur, dont la plupart des mesures ont été retoquées au regard du refus par les professionnels et par la population. Donc, vous savez, là, ils voulaient créer ce qu'ils appellent des métiers, des sous-médecins, enfin, des métiers médicaux intermédiaires, qui revenir aux officiers de santé qui existaient au XIXe siècle. Et pourquoi ces officiers de santé, finalement, ont disparu? Parce que ces officiers de santé, ils étaient à la campagne pour soigner les pauvres ou dans les faubourgs, et puis les médecins soignaient les riches dans les cœurs de ville. Voilà ce que nous propose M. Macron et cette députée La République En Marche, qui s'appelle Valérie Rist, qui est rhumatologue. Ça, c'est les mesures qui sont prises ces dernières années sont des mesures régressives, sont des mesures de casse du service public, et on entretient le fameux déficit de la sécurité sociale pour imposer des mesures d'économie qui sont en train de tuer notre système de santé et au cœur de notre système de santé, eh bien, l'hôpital public.
C'est, du coup, vous êtes délégué CGT. Aujourd'hui, dans les mesures emblématiques contre lesquelles vous souhaitez vous battre de ce point de vue-là, il y a quelques combats là, qui sont à mener en ce moment, des choses qui ne passent vraiment pas, parce qu'on comprend qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a qui mobilisent plus que d'autres ?
Ah bah écoutez, là, ce qu'on réclame aujourd'hui, vous savez, avant même les augmentations de salaire, c'est qu'on arrête de fermer des lits. Deuxième chose, c'est qu'on embauche du personnel pour soulager le travail des personnels en poste. Et ensuite, effectivement, qu'on ait des salaires qui soient décents. Bon, mais voyez, c'est pas très compliqué, c'est compréhensible par tout le monde. Voilà, tout le monde sait que, et tout le monde a vu qu'on a fermé des hôpitaux, qu'on a fermé des services. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris.
On va y revenir hein, dans une deuxième partie.
Voilà, et ben, écoutez, l'hôpital de l'Hôtel Dieu, c'est quoi ? C'est une opération immobilière, on va vendre une partie de l'hôpital pour faire une galerie marchande et un restaurant étoilé.
Mais je vous propose qu'on va revenir sur ce sujet. Restez avec nous, on va juste marquer une petite pause musicale et on reprend sur l'Hôtel Dieu juste après. Merci. I got a big pot of hummus and I'm doing alright. Mother says she loves me, it's a lonely old life. And most of my dreams, they never get to the light. But nothing's gonna break my day. I got a big part of hummus and I'm doing good. Another day ended like I knew that it would. There's a funny kind of feeling in my neighborhood. But nothing's gonna break my day. So take a carrot and then the celery, dip it in. Hold a memory, break a prayer. Love your enemy, and if you cannot find a bridge, just think about your bridge and remember that you gotta loving it, they're not in this room. But nothing's gonna break my day. So take a carrot and then the celery, dip it in. Hold a memory, break the bread. Love your enemy, and if you cannot find a bridge, just think about your bridge and remember that you gotta. Got a big pot of hummus and I'm singing a song. They tell me life is short, but today it feels long. And I'm not sure there's a single group to which I belong. But nothing's gonna break my day. So take a carrot and then the celery, dip it in. Hold the memory, break the bread. Love your enemy, and if you cannot find a bridge, just think about your bridge and remember that you gotta. Et c'était Big Pot of Hummus par Tom Rosenthal. Tu es toujours à l'écoute de Jusqu'à Nouvel Ordre sur Radio Campus Paris. Jeannot pour les intimes.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi, à 19h sur Radio Campus Paris.
Et si tout se passe bien, normalement, nous sommes toujours avec Christophe Prudhomme. Allô, est-ce que vous êtes toujours là ?
Toujours là.
Parfait. Je suis toujours là. On est un peu fébrile, la technique nous a un peu lâché aujourd'hui.
J'ai vu que vous aviez des soucis, mais voilà, mais je suis là, il n'y a pas de
merci,
problème.
Merci,
merci. Merci d'être là. Juste avant la pause, vous évoquiez l'Hôtel-Dieu et notamment, alors il y a effectivement le projet immobilier dont on va parler, mais d'abord l'actualité autour de ça, c'est qu'il y a eu l'annonce de la réouverture des urgences qui avait été fermée le 4 novembre. Et alors on se demande forcément comment ça se fait que des urgences d'un hôpital soit fermé en pleine vague de Covid, en fait. Qu'est-ce qui s'était passé ?
Bah écoutez, le directeur général de l'assistance publique, Martin Hirsch, a considéré que, comme il était en manque de personnel, il a préféré fermer un service d'urgence, c'est-à-dire déshabiller Pierre par habiller Paul, pour envoyer le personnel de manière brutale en renfort pour ouvrir des lits de réanimation supplémentaires à l'hôpital Cochin. Bon, effectivement, en manque de lits de réanimation, mais vous voyez, fermer un service d'urgence qui plus est un service d'urgence qui reçoit la population pour les urgences tout venantes, c'est un non-sens dans une période où les hôpitaux sont surchargés, en particulier les hôpitaux dans lesquels il y a des services de réanimation qui accueillent les malades les plus graves. Eh bien, il faut soulager ces hôpitaux et l'hôpital de l'Hôtel-Dieu était idéalement positionné, dimensionné pour soulager ces hôpitaux. Donc on a fermé les urgences. Et ce qui est catastrophique, quoi. Vous voyez, bien sûr, on a besoin de lits de réanimation en plus, mais la question, c'était de garder les urgences ouvertes et d'affecter du personnel,
de nouvelles personnes
supplémentaires pour ouvrir des lits de réanimation.
Aujourd'hui, la réouverture...
La logique de Martin Hirsch, c'était de profiter, en fait, de la crise pour éventuellement créer une situation de non-retour et ne pas ouvrir les urgences. Comme nous nous sommes mobilisés, que nous avons mis en lumière le non-sens de cette décision, il est obligé aujourd'hui de rouvrir les urgences. Mais il rouvre les urgences, mais il a annoncé qu'il mettait en place un groupe de travail. Vous savez, les groupes de travail, on réfléchit pour savoir quel va être l'avenir de ces urgences.
Et c'est pas pérenne pour l'instant.
On craint qu'ils nous annoncent ces urgences, eh bien, c'est peut-être pas la peine qu'elles soient ouvertes la nuit, puis c'est pas la peine qu'on garde les lits d'hospitalisation qu'on appelle les lits d'hospitalisation de courte durée, qui sont les lits pour les patients qui arrivent aux urgences et qu'on va garder pendant 12h, 24h, vous voyez, avant qu'ils rentrent chez eux si on a réglé leur problème ou qu'ils soient transférés dans un service spécialisé pour les examens. Donc voilà, la stratégie, elle est claire. Hein, c'est de se débarrasser de toute activité de soins, c'est de laisser à l'Hôtel-Dieu, pour la forme, un centre de santé, vous voyez, des consultations, hein, ils appellent ça un hôpital debout, des consultations, et de valoriser l'immobilier. Vous savez, c'est cette opération qui est en cours, ça fait 20 ans que ça dure. On a perdu à Lyon, à Marseille, où les hôpitaux qui s'appelaient les Hôtels-Dieu, qui étaient au centre de ville, où la charité, ont été transformés en hôtels 5 étoiles plus. Il faut savoir que le bâtiment que vous voyez derrière la mairie de Marseille sur le Vieux-Port, qui aujourd'hui est un hôtel 5 étoiles plus, qui était l'hôpital historique de Marseille, l'hôpital du Panier, du quartier du Panier. Mmh. Voilà. Et ce qui était prévu il y a 15 ans à Paris, c'était de vendre l'Hôtel Dieu au Qatar pour en faire un hôtel 5 étoiles plus. Les luttes qui ont été menées ont permis d'empêcher cette transformation.
Pour que les auditeurs comprennent bien en quoi l'Hôtel Dieu est emblématique et pourquoi ça fait autant problème de fermer ces urgences à ce point-là de Paris.
Bah écoutez, l'Hôtel-Dieu est emblématique parce que c'est le plus vieil hôpital de Paris, qu'il est idéalement situé dans Paris et qu'on a un véritable problème dans Paris, c'est-à-dire que nous avons des hôpitaux très spécialisés, vous voyez, Cochin, La Pitié, qui font de la médecine de haute technicité, des greffes, la prise en charge d'infarctus, etc. Mais on a un manque dans Paris pour les pathologies tout venantes, qui sont quand même l'essentiel des besoins, en particulier pour les personnes âgées qui sont atteintes de ce qu'on appelle de polypathologie, vous voyez, qui ont à la fois un problème cardiaque, du diabète, aussi de l'insuffisance respiratoire. Enfin, c'est pas forcément les personnes
âgées. Et donc ça permettrait de soulager les autres hôpitaux.
Ça, ça permettrait de soulager les autres hôpitaux, bien sûr, okay. Vous voyez, qui sont aujourd'hui surchargés. Et donc, le projet que l'on défend sur l'Hôtel Dieu, c'est pas que l'Hôtel Dieu redevienne un hôpital très spécialisé comme il a pu être à une certaine époque, mais qui joue son rôle d'hôpital de proximité tout venant, et y compris du fait de sa localisation dans le projet alternatif qu'on défend aujourd'hui, qui devienne l'hôpital de référence pour les touristes. Hein, Paris est une des premières villes touristiques de France. Quand ils ont un problème de santé, ils viennent à l'Hôtel Dieu, qui peut avoir des contrats, vous voyez, avec les compagnies d'assistance, qui y compris bénéficient, parce que c'était utilisé pour les patients qui venaient se faire opérer dans le service de pointe d'ophtalmologie. Il y a des chambres d'hôtels hospitaliers où on peut héberger les gens en attendant qu'ils puissent être rapatriés dans leur pays. Vous voyez, on a un équipement qui peut répondre à des besoins qui sont des besoins évidents.
Et ce projet...
Si ce n'est pas le service public qui le fait, forcément... Eh bien, le privé s'en emparera. Mais je peux vous dire que quand vous êtes touriste, vaut mieux venir dans un hôpital public qui a un contrat avec votre caisse d'assurance maladie et votre assurance rapatriement que de passer dans le privé. Hein. Parce que ce système-là, on connaît aux États-Unis. Hein. Il y a une ambulance qui vient vous chercher en arrêt aux États-Unis. Il faut que vous donniez votre carte bleue et on vous débite 1 000 $. Hein. Pour voir.
Et voilà. Justement, ce projet alternatif, là, pour le moment, est-ce qu'il existe encore ? Qui le porte ? Et est-ce qu'il a une chance d'exister ? Parce qu'a priori, la direction
est pas... Qui le porte, ce sont des collectifs citoyens, des syndicats, des gens non syndiqués, des médecins... mon collègue Gérald Kierzek et moi en particulier.
Et ça fait combien de temps que vous êtes sur ce sujet ?
Ça fait déjà 6 ou 7 ans que nous sommes sur ce sujet, sur ce projet alternatif. Vous voyez, on l'a remis au goût du jour, réactualisé là il y a quelques mois. Et on avance parce qu'on va relancer le débat public. On va proposer d'organiser une votation citoyenne pour les 4 arrondissements concernés du centre de Paris. Et aujourd'hui, rien n'est fait parce qu'on va interpeller de nouveau Madame Hidalgo et la majorité municipale parce que pour l'instant, tant que ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme n'est pas modifié, il ne peut pas y avoir de permis de construire pour transformer ces locaux en autre chose qu'un hôpital. Donc tant que le Conseil de Paris n'a pas pris la décision de modifier le plan local d'urbanisme, les locaux doivent rester les locaux hospitaliers. Donc on va interpeller les élus et Mme Hidalgo pour qu'ils ne modifient pas le plan local d'urbanisme pour transformer des locaux hospitaliers en locaux commerciaux.
Et voilà, justement, est-ce que vous avez été reçu par la mairie de Paris, et notamment Mme Hidalgo ?
Eh bien, on avait été reçu il y a quelques temps.
Avant la crise ?
Avant la crise, d'accord. Mais au regard de la crise et de ce qu'a montré la crise en termes de besoins hospitaliers, nous pensons que notre projet alternatif a une légitimité encore plus forte qu'auparavant.
D'accord.
C'est ce projet alternatif. Est-ce que aujourd'hui, des auditeurs auditrices qui nous écoutent peuvent y apporter leur soutien ? Alors, il y aura la votation donc pour les habitants de ces quartiers, si j'ai bien compris. Mais voilà, des personnes qui nous écoutent.
Eh bien, le soutien qu'ils peuvent nous apporter, c'est d'interpeller leurs élus.
Via une plateforme.
Dans les quartiers, pour leur dire il faut que l'Hôtel Dieu, il n'y a pas que le problème de l'Hôtel Dieu, pour l'instant on n'a pas de
plateforme d'outils. Mais ils peuvent le faire, on connaît les élus.
Ils peuvent le faire de leur côté. On est en train de travailler aussi avec un architecte pour qu'on ait un projet alternatif avec des maquettes, etc. Vous voyez. Et puis il n'y a pas que l'Hôtel Dieu, parce que là on parle de l'Hôtel Dieu, c'est assez emblématique, mais il faut savoir que ce qu'on appelle le projet médical de l'assistance publique, c'est la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon pour construire un nouvel hôpital à Saint-Ouen, mais en supprimant 400 lits. C'est de fermer l'hôpital de Garches pour faire aussi une opération immobilière, alors que cet hôpital est un hôpital de réputation mondiale sur la prise en charge des accidentés lourds, avec des services de rééducation, de chirurgie orthopédique très spécialisés. C'est l'hôpital où il y a le seul caisson hyperbare de Paris, caisson qui sert à traiter, là on est en plein dans la période de ce qu'on appelle les intoxications monoxyde de carbone. Vous savez, il y a des chauffages qui fonctionnent mal. Mmh. Voilà, donc pour une opération immobilière, parce que les terrains de Garches, vous voyez, Garches, c'est l'ouest parisien, c'est à la limite de Marne-la-Coquette, c'est pour faire des logements de luxe. Mmh. Voilà, donc on va fermer un hôpital pour faire des logements de luxe. Dans mon département, qui est le département le plus pauvre de France, qui est la Seine-Saint-Denis, on est en train de démanteler l'hôpital de Bondy, l'hôpital Jean Verdier, qui est qui jouxte une des cités les plus pauvres de France.
Et voyez, pourquoi on le démantèle?
Eh bien, on le démantèle parce que on est dans une logique de concentration. Donc, on veut, on a transféré déjà une partie des services, mais en diminuant les capacités sur l'hôpital de Bobigny à Avicenne. C'est la rationalisation. Vous savez, c'est toujours, on rationalise l'efficience, on concentre les moyens. Mais,
et au passage, on supprime des lits. Et
voilà, la logique des gens qui nous gouvernent, c'est l'efficience, c'est 1 plus 1 fait toujours moins que 2. Vous voyez, moi, je le traduis comme ça.
Ça sera
facile à comprendre pour vos auditeurs.
Et ça sera facile à comprendre. Et le mot de la fin, merci beaucoup Christophe Prudhomme d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes médecin urgentiste au SAMU 93, porte-parole de l'association des médecins urgentistes et délégué CGT Santé, et que vous portez notamment un projet alternatif pour le maintien de l'Hôtel Dieu comme hôpital de proximité. Et on encourage évidemment les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés pour se mobiliser à faire ce qu'ils peuvent
et interpeller
les élus. On espère aussi que et ce sera probablement le cas, que les questions de santé publique et de système de santé publique seront à l'ordre du jour d'ici 2022. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bon courage. Merci pour la suite. Merci.
Alors, quant à toi, auditrice, reste à l'antenne. On écoute tout de suite un petit peu de musique et puis on se retrouve tout de suite après. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. cette feinte.
Yeah. Oh yeah.
Il se passe des trucs dans cette radio aujourd'hui. Que ne suis-je pas heureux d'être ici. C'était...
Ils se sont emparés de la radio, ça, ouais, des ordinateurs et de l'imprimante.
On nous a dit, mais non, c'est pas déconfiné encore.
C'est ça, c'est toi Brice qui m'a dit ça au téléphone hier.
Oui.
Tu m'as dit, attention Anaïs, le 15 décembre, tu n'es pas libérée.
Ben oui, on en parle tout de suite après. Je vais quand même désannoncer cette musique. Edson de Casey Lambist, feat. LC, hello. Non, mais vous me foutez des groupes aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça?
Bah, excuse-moi, je l'aime bien. J'avais le droit, non?
Eh bien, écoute, la prochaine fois, aime des trucs plus faciles, genre Benabar.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Je suis tellement un boomer, je viens de citer Benabar, quoi, à l'antenne de Radio Campus Paris.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben ouais, en même temps.
L'âge. Parce que j'ai appris, il faut savoir, il faut le redire à nos auditeurs, c'est que j'ai appris le vrai âge de Brice.
Brice, je ne sais pas qui est cette personne.
Dans sa chronique de Pitoum.
Voilà. Hein? Oui, dans ma chronique, dans l'édito de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà.
Il a dit 20 ans, c'était il y a...
C'était il y a 13 ans.
Voilà.
Tout à fait. Et Chloé qui nous a rejoint dans le studio.
Bonsoir,
vient
Chloé.
De paniquer. Elle est en PLS.
Bonsoir,
donc,
un peu, c'est ça.
Voilà. Ça va?
Ça va, super. Bah non, plus maintenant. C'est ton âge, mais avant.
Ouais, je comprends. Moi aussi, ça me fait cet effet-là tous les matins. Dis-toi, tu vois, c'est une fois ce soir. Moi, c'est tous les matins. Comment s'est passé ce confinement?
Bah écoute, ça allait. Je me suis confinée à la campagne avec des amis. C'était très chouette.
Confinement.
Confipote.
Ouais, confipote.
C'était confipote.
Pas mal du coup. Pas
oui,
mal.
C'est ça.
Et du coup, t'es revenue quand même.
Ouais, bah je suis revenue pour.
Pour la radio.
Campus. Bah oui, voilà, c'est ça.
Non, mais c'est pas beau ça. Regardez.
Un plaisir.
On les paye pas et ils en demandent.
Parce qu'ils m'aiment trop et ils nous aiment trop.
Ils nous aiment trop, tout à fait. Enfin, je dis nous, mais je suis pareil qu'eux. En fait, je suis bénévole aussi, moi. Qu'est-ce qui se passe? Chloé, du coup, tu reviens du coup. Vers nous avec des bonnes nouvelles a priori pour la réouverture des centres culturels.
Ouais, a priori. Hein.
A priori, hein, on en parlera après.
Ouais. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire un hommage à un président décédé, je vais pas vous donner des informations sur l'épidémie, mais du coup, comme tu le disais, Pitoum, plutôt des bonnes nouvelles très réjouissantes. Donc, quelques semaines avant Noël, je vous fais un petit cadeau avant l'heure. Alors oui, ok, il fait froid dehors, il pleut, le soleil se couche, vous avez même pas terminé de prendre votre goûter, les apéros chez vos potes en petit comité ont un goût amer et vous ne rêvez que de faire la fête avec de nombreux inconnus jusqu'au bout de la nuit, comme je vous comprends. Vous êtes aussi excité par le futur que par, je sais pas moi, Zemmour en slip, et je vous comprends aussi. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que ça va aller, et laissez-moi vous le prouver, parce que le 15 décembre, a priori, sera notre salut. Vous n'allez pas passer votre soirée comme prévu dans votre canapé, attendant doucement et mollement le lendemain. Non, surtout pas, vous allez braver la neige et le blizzard et vous rendre au cinéma. Chaleur des salles noires, joie du film projeté sur grand écran, un délice que vous aviez oublié. Mais alors vous dites sûrement que ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas allé au cinéma, que vous n'êtes plus capable de faire la différence entre un navet et un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que moi, je suis là ce soir. Il y a des films magistraux qui n'attendent que vous et qui patientent depuis un mois pour vous éblouir. Alors d'abord, je ne peux que vous conseiller le merveilleux Michel-Ange de Andrei Konchalovsky. C'est un film russo-italien sur ce grand artiste de la Renaissance, peintre, sculpteur, architecte de génie. Ce film vous plonge dans le Florence du XVIe siècle, déchiré par les luttes intestines et politiques que mènent les Médicis. Alors niveau dépaysement, on est très bon. Rien de commun entre nos rues confinées et le faste de la cour florentine. Michel-Ange, il est interprété par l'acteur italien Alberto Testone, et Michel-Ange est malmené par cette famille. Lui, génie créateur, qui n'aspire qu'à exprimer son art avec passion et sans cesse rattrapé par les intrigues financières et politiques des Médicis. Ce film, en plus de vous faire côtoyer les chefs-d'œuvre de l'artiste, nous montre un Michel-Ange en pleine extase créatrice. Il apparaît comme un être constamment angoissé à la recherche de la perfection. Et ça vous donnera peut-être envie de vous bouger et de vous mettre à la sculpture, vous aussi. Alors après ça, je peux que vous conseiller encore une fois Le Sensible Miss de Ruben Alves, qui raconte l'ascension en tant que Miss France d'un jeune homme qui navigue entre les genres sans jamais se définir. Interprété par un jeune mannequin androgyne français Alexandre Vetter, ce jeune homme ne s'embarrasse pas du genre. Il veut devenir Miss France, bah il deviendra. C'est un film doux qui redonne de l'espoir en ces temps gris et rappelle que croire en ses rêves, bah parfois c'est possible. Et en plus c'est un film français et je crois que ça fait du bien de voir des bons films français en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Adieu les cons d'Albert Dupontel avec Virginie Efira. Tous les deux, ils se lancent dans une cavale désespérée et rocambolesque qui fera office de rédemption. Là, vous avez trois films. Ça fait à peu près de quoi vous réjouir trois jours de suite.
Mais ce n'est pas tout, n'est-ce
pas ?
Et non,
c'est pas tout, Pitoum, parce que je vous avais prévenu, c'est une très grosse surprise, pas un petit cadeau de rien du tout. Il n'y a pas que les cinémas qui réouvrent, il y a aussi les musées. A priori. Ces lieux de culture, de bonheur, de plénitude, ces lieux qui vous rendent heureux, je l'espère autant que moi, ils me rendent heureuse. Alors là, la liste est très longue, immense, et je peux que vous encourager à courir d'expo en expo et à vous en mettre plein les mirettes pour continuer à tenir bon pour les mois qui suivent. Mais comme j'ai que 4 de minutes devant moi, j'ai dû faire une petite synthèse et vous sélectionner les meilleurs plans. Bon, encore une fois, il faudra avoir le masque, il faudra bien réserver à l'avance, mais ça fait quand même rêver. Alors, j'ai découvert le musée de la Poste.
Petit, maintenant.
Ouais,
non,
on rêve petit,
pas,
on rêve masqué, on rêve, ouais. Mais moi, je rêve un peu quand même. Bah, avec le musée de la Poste qui va nous faire rêver, je voulais vous en parler.
On disait rêver petit.
Ah, dans ce musée, c'est une exposition qui a ouvert, là, c'est une exposition immersive à Montparnasse. Et c'est une exposition très étonnante qui va vous faire voyager, ça c'est sûr, puisque c'est 13 artistes contemporains qui explorent le thème de l'univers et de l'immensité du cosmos. Ils s'approprient ce thème et ils décentrent par l'art, donc nos regards omnibulés par le quotidien, un petit peu décevant, je te l'accorde. Lever les yeux et regarder les étoiles, je pense pas que ça puisse nous faire du mal. Et une fois qu'on a fini donc, de se prendre pour ces cosmonautes au musée de la Poste, on peut redescendre sur Terre et se rendre à Beaubourg pour assister à la sublime exposition Matisse. C'est une exposition qui est très attendue et qui est surtout très originale et très bien aussi, puisqu'elle va interroger la relation de Matisse avec toutes les écritures, avec les signes et avec les mots. Donc on y croise Louis Aragon, qui a consacré un roman entier à son ami peintre Matisse. Et on nous explique que Matisse cherchait à trouver une écriture pour chaque objet et pour se faire en fait le propre commentateur de sa peinture. Donc c'est une immense exposition, comme a l'habitude de le faire donc le Centre Georges Pompidou, mais c'est une superbe exposition. Donc oui, c'est pas exactement comme avant, bien sûr. Les fêtes qui approchent dans un contexte pareil, c'est pas très gai. Mais j'ai l'impression que les choses avancent petit à petit et reprennent une allure positive. Alors peut-être que dans 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi, j'avoue, je reviendrai faire une chronique qui vous vantera la réouverture des bars et des restaurants. Mais d'ici là, allez au musée, au cinéma et surtout gardez la pêche.
Merci beaucoup, Chloé.
Et la banane surtout.
Et la banane.
Je cherchais désespérément un truc avec soyez timbré ou quelque chose comme ça pour faire écho à la chronique, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Bah, écoutez, c'est la reprise. Hein.
Ouais, c'est dur.
On y va.
C'est dur.
On y va à son rythme.
L'alcool manque dans le sang. Hein, là, ça se.
Eh bien, tu sauras qu'en plus d'être vieux, je ne bois pas.
C'est bien.
N'est-ce pas? Oui, faites attention.
Manger, bouger. Les bonnes résolutions avant l'heure.
Pardon ?
Tu fais les bonnes.
Oui, j'ai commencé très très tôt. Oui, bah, merci beaucoup, Chloé.
Bah,
t'as pas parlé des théâtres qui réouvrent aussi normalement.
Si, oui, non, j'y ai pas parlé, mais comme j'avais pas tout à fait le temps, mais
non,
ça c'est cool.
Oui, on espère. Enfin, on espère. On ne sait pas.
On reviendra la semaine prochaine.
Mais déjà, effectivement, tu reviendras. Ouais. Et puis, non, c'est vrai qu'on en parlait, puisque en s'interrogeant sur les sujets potentiels de ce soir, Anaïs avait très envie de faire quelque chose, un sujet. Non, mais c'est le déconfinement qui arrive, ça va être trop bien, on va en parler.
Et tout m'a fait redescendre de mon petit nuage. Je ne vais
tempérée.
Pas être libérée de ma cage de la fosse au lion dans
on
laquelle je
pas.
Suis.
On ne sait pas.
J'avais très peur que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, cette chronique super gaie, super enjouée. Et en fait, la veille, bah non.
Ça nous fait du bien, Chloé, d'un petit peu d'espoir dans ce monde brut.
C'est ce que je me suis dit.
On peut continuer à faire l'autruche jusqu'au 15 décembre. Et
oui.
Peut-être on aura une bonne surprise. Genre, on n'est pas à l'abri d'un miracle.
Ouais, si. Je te jure que si on est à l'abri
je
général,
crois
en
que
ce
là
moment...
nous sommes prêts à tout.
Oui, tout à fait.
Mais sinon, vous allez faire quoi, vous, si déconfinement il y a?
Ah, si déconfinement il y a, je pense que je vais faire exactement pareil avec un tout petit peu moins de culpabilité. Du coup, parce qu'en fait, je
ah
vois
ouais,
des gens toujours
carrément.
Et tout.
Parce que moi, j'en suis en train de me morfondre dans mon état de marmotte en hibernation. Parce que là, j'ai fait que dormir. Je croyais que j'allais pas être fatiguée.
Ah, c'est pour ça que j'ai reçu le conducteur super tard.
Quoi, une seconde du direct? Bah
ça,
oui,
tout
oui.
À fait.
Ben, voilà.
Non, moi j'attends le film Kaamelott qui a été repoussé, donc je veux dire, enfin voilà.
Il y a OSS aussi 117.
Oui, mais alors OSS 117, Nicolas Bedos, je suis.
Tu veux pas aller voir mes films?
Si, non, mais si, j'irai voir.
Trois, aller voir.
Si, c'est vrai, cool, j'irai voir. En plus, j'ai un cinéma à côté, j'ai aucune excuse.
Voilà.
On se réécoute
aussi.
Une petite musique pour avancer.
Ah, pour le fun. Allez.
Te relèvera, dis-nous si c'est bien. si ça va.
C'est bien, ça s'appelle...
Oui, ça fait du bien.
Pardon,
oui,
c'est ça, ça fait du bien. Dis-nous si c'est bien. Donc, c'était De plein fouet. J'en ai marre de cette radio de merde. De Arlt. Voilà,
quoi,
démerdez-moi avec ça. Arlt. Moi, je veux plus, je veux nostalgie. Foutez-moi du Johnny Hallyday. Tu es toujours à l'écoute
mais
de Jusqu'à Nouvel... J'arrive à le dire. Tu es toujours à l'écoute de Jusqu'à Nouvel Ordre, un peu freestyle sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi. À 19h sur Radio Campus Paris.
Et peut-on encore avoir confiance dans les médias scientifiques ? Une grande question qui a son importance en 2020. Audrey, tu t'es posé cette question après des événements survenus au sein de la rédaction de Science et Vie.
Connaissez-vous la revue Science et Vie ? C'est une revue scientifique française créée en 1913. Or, depuis septembre, rien ne va plus. Reworld Media a racheté le magazine il y a un peu plus d'un an. Reworld Media, c'est, selon Loris Gaimard, journaliste à Arrêt sur Image, une sorte d'usine à contenu spécialiste des magazines sans journaliste. Le site internet de Science et Vie n'est plus alimenté par du contenu produit par des journalistes. Ce sont des chargés de contenu, non journalistes et non scientifiques qui s'en occupent. Par conséquent, la rédaction a voté une motion de défiance envers cette directrice, après une grève en septembre. La nouvelle directrice n'est ni une journaliste, ni une spécialiste scientifique. De nombreux journalistes estiment qu'à travers le site internet, la revue perd de sa crédibilité scientifique.
Et Science et Vie est-elle un cas à part, ou peut-on encore se fier à la presse et aux médias scientifiques du coup ?
Oui, à condition de bien regarder qui est à l'origine de l'écriture de l'article. Mais dans le cas de la revue Science et Vie, la crédibilité peut être remise en cause sur le site internet. Et malheureusement, ce n'est pas la seule. Rappelez-vous, au printemps, la prestigieuse revue britannique médicale The Lancet fait les gros titres le 22 mai. Elle publie une étude sur les effets néfastes de l'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a interrompu ses essais avec ce médicament, n'en déplaise au professeur Raoul, après cette étude. Mais plus tard, 3 des 4 co-auteurs se désolidarisent de l'étude. L'article est retiré de la revue, le motif, les données scientifiques n'étaient pas vérifiées et vérifiables, ni totalement indépendantes. Donc pour ne pas perdre toute leur crédibilité, The Lancet a annoncé un renforcement de sa procédure. Un chercheur indépendant, sans lien avec une quelconque entreprise commerciale, sera chargé de vérifier les données avec un expert compétent dans le domaine.
Bon, la revue Science et Vie, dans un autre genre, la revue The Lancet. Bon, évidemment, ça ne va pas arranger la méfiance envers les journalistes. Le rapport Digital News de Reuters Institute, publié en 2020, met en évidence que seulement 23% des Français ont confiance, la plupart du temps, dans les médias d'information.
Exactement, et c'est là que ça pose problème, car depuis le début de la crise sanitaire, des dizaines de médecins, immunologues, épidémiologistes, infectiologues ont pris la parole dans les médias. Le 16 novembre dernier, Michel Simès, médecin français, s'exprimait sur Quotidien à ce sujet. Je cite « Aujourd'hui, la parole médicale est devenue inaudible. Elle a été remplacée par une parole scientifique, par des paroles d'experts qui n'en sont pas. Il y a un brouhaha autour du Covid qui fait que l'on ne comprend plus rien. » Et c'est bien le cas. Michel Simès rappelle également la déontologie du Conseil de l'Ordre des médecins. Les infectiologues ou épidémiologistes n'ont pas le droit de promouvoir un traitement si ce dernier n'a pas démontré son efficacité contre une maladie. À ce sujet, une tribune a été publiée par le journal Libération le 9 octobre dernier. L'association S3 Odéon met en évidence la sous-représentation habituelle des chercheurs qui ne correspond plus du tout à l'effervescence actuelle. La tribune appelle les médecins d'ailleurs à l'humilité et je cite « à avoir le courage de dire ce que l'on sait et ce que l'on ignore ».
Donc pour résumer, une presse médiatique en berne et des spécialistes en veux-tu en voilà sur les plateaux télévisés. Cette surreprésentation scientifique en pleine crise sanitaire a-t-elle redonné confiance en les médias ?
Alors oui et non. Beaucoup ont témoigné sur les réseaux sociaux l'angoisse générée par les chiffres du Covid-19 pendant le premier confinement. D'autres ont trouvé la parole de certains experts rassurante. Parmi eux, on retrouve les médecins rassuristes. Mais qu'est-ce qu'un rassuriste ? Ce sont les chercheurs, les médecins qui voient dans la politique du gouvernement une volonté de faire peur. Face à eux, il y a les alarmistes, qui sont d'accord avec la politique du gouvernement et tentent à envisager le pire sur la base des informations dont ils disposent.
La division entre rassuristes et alarmistes a-t-elle favorisé l'émergence de plusieurs théories du complot ?
Les théories du complot existent depuis longtemps, que ce soit sur Melania Trump ou les aliens. La pandémie mondiale a fait ressurgir ces tendances au complotisme, notamment sur les réseaux sociaux. L'origine du Covid y règne en maître. L'Institut Pasteur a-t-il propagé le Covid-19 ? Non, ces faux réaffirment sans cesse l'Institut en question. Alors, est-ce que l'on peut encore se fier à la presse scientifique ? Oui, je le pense sérieusement. Mais c'est aussi à vous, chers auditeurs, de faire attention à ce que vous lisez, où vous lisez et qui l'a rédigé. Pour cela, il existe des outils tout simples, comme la recherche par image sur Google pour vérifier si la photo correspond bien à sa description. Vous pouvez aussi retrouver le décryptage de ces fausses informations sur France Info, Check News de Libération, AFP Factuel ou encore les décodeurs du Monde. Et pourquoi pas acheter le magazine mensuel de Science et Vie ?
Et merci beaucoup Audrey pour cette chronique, alors que ne me reste à peine le temps finalement de dire au revoir au rage, au désespoir, au Covid ennemi. Merci à Dr Christophe Prudhomme pour son intervention en début d'émission, évidemment à nos chroniqueuses Chloé et Audrey, un grand merci à Fichon pour la réalisation, Anaïs pour la coordination. Tu retrouveras cette émission en podcast sur radiocampusparis.org. Quant à toi auditrice, reste à l'antenne, ce qui arrive après est forcément bien. Ciao Bella, ciao.